Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Son nom est élevé au-dessus de tout. Nous lui rendons toute la gloire. Nous allons nous préparer à recevoir le message de sa parole après ces moments merveilleux de louange, d'adoration, ces moments qui nous ont permis de paraître devant le trône de notre Père pour lui rendre ce qui lui est dû de toute éternité. Ces moments qui nous ont permis de nous approcher et d'entrer dans le Saint des Saints céleste, dans la salle du trône, pour le contempler dans toute sa magnificence, dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et maintenant, tout en restant dans sa présence, nous voulons recevoir sa parole. Père, nous voulons te dire merci de nous avoir accordé, Seigneur, ce temps, tant qu'il nous a permis de t'exprimer nos sentiments, Seigneur, par les chants, par les cantiques, tant qu'il nous a permis, Seigneur, de faire monter vers toi nos prières de louange, nos prières d'adoration, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu ne cesses de nous accorder. Merci, Père, d'avoir agréé ce temps, d'avoir accueilli favorablement tout ce qui est parti ou sorti de nos cœurs et qui est monté vers toi. Merci de tout cœur. Nous voulons maintenant, Seigneur, nous asseoir humblement, avec respect et dans un état, Seigneur, d'expectative, d'attente par rapport à toi, car tu as quelque chose à nous communiquer. Et nous voulons le recevoir au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur, manifeste ta gloire au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons revenir à notre thème de la fois dernière, car il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire concernant cette petite parabole que le Seigneur a donné comme réponse à la requête de ses disciples, à la requête des apôtres, requête qui consistait à demander au Seigneur de leur augmenter la foi. Nous sommes donc dans Luc chapitre 17, et donc c'est le 9e épisode de notre thème « Comment voir l'invisible, la foi en Dieu, la foi de Dieu ». Alléluia. Oui, la foi en Dieu. Nous expérimentons le salut, le pardon, la réconciliation, marchons avec lui et la foi de Dieu nous fait entrer dans l'univers des miracles. Alléluia. Mais cette foi de Dieu, cette foi dont nous avons besoin pour déplacer les montagnes, cette foi dont nous avons besoin, mes amis, pour changer l'invisible et expérimenter des changements conséquents dans notre monde visible, eh bien, cette foi-là, que nous appelons la foi de Dieu, naît dans certaines conditions. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe sur la tête comme par hasard, non pas du tout. Elle est le résultat d'une démarche, d'un comportement, d'une conduite, des actions faites en amont. Et c'est seulement en aval qu'alors le Seigneur, qui est l'auteur, l'initiateur de la foi, peut la susciter en nous, et ainsi nous amener à expérimenter le surnaturel, à expérimenter le règne de Dieu, à expérimenter la manifestation du ciel dans nos vies, autour de nous, dans tous les domaines de notre existence. Nous allons relire très rapidement. Je crois qu'au terme de ce thème, eh bien, vous aurez mémorisé ce passage, il n'y a que 5 versets. 6. À partir du verset 5, nous lisons, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Encore une fois, je vous rappelle que ici, c'est une demande ponctuelle. Voyez, parce que en grec, il y a cette possibilité d'exprimer, en utilisant l'impératif, quelque chose de ponctuel, c'est-à-dire une action qui n'a pas de durée dans le temps. Voyez. Seigneur, donne-nous, à cet instant, à un moment bien précis, augmente-nous notre foi. C'est donc un impératif aoriste, je me permets de revenir là-dessus. Et donc c'est vraiment quelque chose qui met, dans un contexte bien précis, quelque chose que le Seigneur génère en nous, parce que nous sommes dans le besoin, parce que nous avons besoin d'expérimenter la manifestation de son règne. Alors à cette requête, à cette prière que vous et moi nous aurions pu et nous pouvons adresser au Seigneur, augmente-nous la foi, eh bien la réponse du Seigneur est claire. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, viens tout de suite te mettre à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi le repas, mets-toi en tenue ou bien ceinte-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ses serviteurs, parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Voilà, mes amis, la réponse du Seigneur à cette requête de prière. Et dans cette parabole, comme nous l'avons vu, eh bien, tout s'articule autour de la relation entre d'un côté le serviteur qui est appelé à être esclave et de l'autre côté son maître à qui tout lui appartient. Et donc, a une relation particulière avec son maître. Il a des biens, le maître a des choses qui lui appartiennent et le serviteur esclave est appelé à être actif dans les biens de son maître. Alléluia. Il n'est pas appelé à rester comme ça, à tourner les pouces, voyez-vous, à s'asseoir ou à demeurer dans une posture statique, attendant que le ciel s'ouvre comme par enchantement. Non, pas du tout. Le maître l'a doté des talents, lui a donné des dons, lui a donné des capacités, des compétences, pour qu'il puisse être actif dans tout ce qui lui appartient. Alléluia. Et donc là, nous sommes en train de parler de la relation du serviteur avec les biens qui appartiennent à son maître. Le maître a des biens. Nous trouvons là deux activités vitales. Il y a le labourage et puis il y a l'élevage. Et le serviteur esclave qui doit assumer pleinement sa vocation d'esclave, de quelqu'un qui n'a d'autre volonté que d'accomplir la volonté de son maître, eh bien, il est appelé à être un intendant dans les biens, dans les choses de son maître. Il est appelé, il est chargé d'administrer, de s'occuper, d'entretenir, vous voyez, tout ce qui appartient au Seigneur. Voilà. Il y a d'un côté les troupeaux, dont il doit prendre soin, avec tout ce que cela implique. Il doit veiller, il a donné à manger, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi le champ du maître, le labourage, avec tout ce que cela implique. Voyez-vous, il doit travailler le champ du maître. Il doit enlever les mauvaises herbes. Il doit enlever les cailloux. Il doit prêter la terre. Ensuite, dès que tout est prêt, au terme d'un labeur, d'un grand labeur, alors seulement il procède à l'ensemencement, il jette la semence dans la terre. Et encore, ce n'est pas fini, il doit veiller, n'est-ce pas? Car en jettant la semence, comme le semeur de la parabole, encore un enseignement du Seigneur, il doit veiller que la semence tombe dans la bonne terre. Et donc il doit être vigilant. Il ne doit pas être distrait. Il doit veiller. La semence du maître est précieuse. Elle est appelée à produire du fruit. Alléluia. Car c'est au travers du fruit que la volonté de son maître sera glorifiée. Donc, il doit être actif. Nous de même, mes amis, comme le maître de cette parabole, qui n'est autre que lui-même. Et dans cette métaphore, à la fois du champ et des troupeaux, eh bien, nous sommes appelés à être actifs dans les choses de Dieu. Voyez, vous ne pouvez pas avancer dans la vie, dans l'Église, vous épanouir à tous égards, expérimenter la plénitude de la vie que nous avons en Christ, si vous n'êtes pas actif d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous, car dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas d'un côté des spectateurs, vous voyez, qui sont là, et de l'autre côté des acteurs. Les spectateurs sont là simplement pour contempler ce que les autres font. Non, il a donné aux uns, alléluia, d'être docteur. Il a donné aux uns d'être pasteur. Il a donné aux autres d'être apôtre, etc. Il a donné aux uns d'être diacre, d'être diaconesse. Bref, il a donné à chacun de nous, mes amis, des talents. Il nous a accordé des dons. Il nous a donné des capacités pour que nous puissions être actifs dans tout ce qui le concerne. Et comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, ce qu'on attend de tout intendant, c'est qu'il soit trouvé fidèle dans tout. Alléluia. Fidèle envers son maître qu'il a adopté. Vous voyez? Son maître qu'il a introduit dans sa maison. Mais il doit être fidèle également vis-à-vis de ses responsabilités envers les biens, envers les choses qui appartiennent au maître. Alléluia. Oui, nous sommes appelés à être actifs sur le plan spirituel. Il y a tant de choses à faire. Il ne faut pas attendre que le Seigneur vous adresse un appel quelconque qui vous appelle à être pasteur, à être évangéliste, que sais-je, pour qu'enfin vous vous leviez comme si la seule manière de servir le Seigneur, c'est de prêcher depuis la chair, comme c'est le cas maintenant, comme si la seule manière, eh bien, c'est d'être prophète. Nous sommes tous appelés à être actifs dans l'œuvre de Dieu. Mes amis, ça c'est la première démarche. Si nous voulons que cette foi-là puisse être suscitée, générée, mes amis, par le Seigneur en nous, eh bien, nous devons être absolument actifs dans tout ce qui appartient au Maître. Alléluia. Nous devons nous conditionner, avoir une relation beaucoup plus intime pour permettre au Saint-Esprit de manifester ses dons. Et les dons ont pour but ou la raison d'être des dons, c'est de contribuer à la croissance, de contribuer, mes amis, au perfectionnement des saints, de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. Les dons ne sont pas là pour nous mettre en valeur, pour que tout le monde sache que nous avons reçu un don particulier. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Pour peu que Dieu commence à utiliser quelqu'un, eh bien, celui-ci se met tout de suite à sonner du tocsin, à sonner de la trompette, pour que tout le monde sache que lui, désormais, quand il impose la main, il y a absolument guérison. Pour qu'on sache désormais que lui a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Que lui a reçu le don de la prophétie. Vous voyez? Tout cela amène les gens à se mettre en évidence. Et dès lors que quelqu'un se met en évidence, eh bien, il ferme lui-même la porte aux manifestations du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est là pour glorifier un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons toujours nous considérer comme étant des outils. Et quand Dieu nous a utilisés, quand nous avons fait ce qu'il nous a demandé de faire, en donnant une prophétie, en donnant une vision, en proclamant sa parole, en évangélisant, gagner les âmes, quand nous avons fait tout ce qu'il nous a ordonné, nous devons réagir, comme le maître le dit au verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs. » C'est tout. Voilà. Voilà les sentiments qui doivent nous animer. C'est alors seulement que Dieu pourra être glorifié. Voyez-vous? Car pour Dieu, c'est d'abord ce qui se passe dans le cœur. Vous pouvez avoir toute l'allure d'un homme humble ou d'une femme humble, s'habiller modestement, hein? Opter pour une démarche de calotin, que sais-je. Voyez? Vous pouvez avoir une allure, une apparence qui envoie l'image aux autres d'un homme ou d'une femme humble. Alors qu'en réalité, vous êtes un but de vous-même. Alors qu'en réalité, vous souffrez d'un ego surdimensionné. Un ego hypertrophié, malade. Nous devons faire attention à l'hypocrisie. Lisez les évangiles, vous allez voir que parmi les défauts, parmi les vices que le Seigneur a stigmatisés auprès de tous ces chefs religieux, il y a l'hypocrisie, n'est-ce pas? Lisez dans le sermon sur la montagne, vous allez voir. Dieu veut que nous soyons vrais. Alléluia. Il veut que nous soyons vrais dans tout. Voyez. Mais si nous commençons à avoir des attitudes pour envoyer des signaux qui ne sont pas vrais, eh bien, nous-mêmes nous fermons la porte au regard du Seigneur. Car nous ne pouvons pas, comme j'ai déjà eu à prêcher, nous ne pouvons pas bénéficier à la fois du regard de notre Père, un regard tendre, un regard doux, un regard agréable, favorable, et en même temps, avoir le regard des autres. C'est impossible. Vous voyez? C'est impossible. C'est pourquoi, dans le sermon sur la montagne, il a été clair dans Matthieu 6. Voilà. Si vous voulez prier, ne faites pas comme les scribes, comme les sadducéens, comme tous ces chefs religieux, qui se tiennent au coin de rue. Voilà. Là où les gens passent. Ou sur des places publiques. Et les voilà qui lèvent leurs mains. Voilà. Déjà avec une tenue pompeuse. Vous voyez? Et là, ils se mettent à prier à haute voix, avec des formules théologiques. Vous voyez? Père très saint. Adonai Yahvé. Nous les voyons encore aujourd'hui. Regardez tous ces gens avec leur tralala. Voilà. Leurs vêtements. Même les pasteurs aujourd'hui. Ils cherchent des tenues un peu bizarroïdes. Voilà. Voilà. Des calottes. Des châles. Et là, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça qui fait l'onction. Oui, c'est l'onction de la chair. Parce qu'avec ça, tout le monde a les yeux fixés sur vous. L'apôtre est là. Et là, vous marchez. Une grosse croix au cou? Non! Dieu regarde au cœur. Alléluia. Donc nous devons servir. Être actif. Dans l'intercession. Prendre du temps pour intercéder pour ton église. C'est déjà être actif. Alléluia. Eh oui. Comme nous l'avons vu. Il y en a qui sont appelés à prêcher. À prendre soin du troupeau du Seigneur. À le nourrir. Pas avec de la salade charnelle, pas avec des recettes mondaines. Car aujourd'hui, beaucoup de pasteurs se comportent comme des coachs. N'est-ce pas? On veut montrer aux gens, on veut coacher les gens et tout ça. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Voilà. Des pasteurs sont là à donner des petits conseils, et quelquefois c'est des conseils du bon sens. Mais comme aujourd'hui, malheureusement, les gens sont complètement à l'ouest, et ça je vous l'ai dit, intellectuellement le niveau baisse d'année en année. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un a un doctorat qu'il est intelligent. Faut faire la part de choses. Il y en a qui ont fait des études et qui reproduisent uniquement le savoir qu'ils ont acquis. Comme des perroquets. C'est tout. Voyez. Alors ils sont impressionnés. Pour peu que quelqu'un donne un petit conseil. Oh, les prophètes. Alors on publie ça sous forme d'une citation. Et quand vous lisez, vous dites, mais c'est pas possible. Des fois, je suis étonné. Mes amis, je suis étonné du niveau des petites pensées qu'on pourrait trouver même à l'école maternelle. Mais parce que ça sort de la bouche de l'apôtre ou de l'archevêque, ou du bishop, tout ce que vous voulez, alors ça devient quelque chose de spécial. Voilà. Et puis on publie. Alors tout le monde, amen. Amen, bishop. Amen, archevêque. Amen, trishop. Enfin, bref. Alors que, au fond, il n'y a rien. Ce sont des conseils qu'on pourrait trouver même auprès des païens. Voilà. auprès de certains philosophes, auprès de gens qui passent leur temps à réfléchir, voilà, qui ne passent pas leur temps entre quatre murs, devant la télé, pendant des heures et des heures. Quand la télé est finie, ils se rabattent sur le TikTok, je sais pas quoi, les voilà partis pendant des heures et des heures. Et oui, et puis c'est tout. Vous devez nourrir votre intellect. Oui. Par la lecture, par la méditation, par la réflexion. Tout ça développe ses capacités cognitives en nous. Non, on a eu son diplôme et c'est fini, on l'enferme dans un armoire. C'est fini. Voyez. Donc, servir le Seigneur dans l'enseignement de la parole, dans l'encouragement. On n'a pas besoin d'être un prédicateur attitré pour pouvoir encourager. Moi, je me souviens au début, puisque je ne peux mieux parler que de moi-même, hein, oui ou non. Eh bien, je me souviens au début de ma conversion, je buvais toutes les prédications du pasteur Vernon. Et ensuite, je partais partager cela tout autour de moi. Voilà. J'en mangeais tellement, j'en voulais tellement. Je lisais tellement la Bible. Je me souviens avoir été prêché dans une famille quelque part à Limité. Nous sommes dans les années 80, au milieu de, presque à la fin des années 80. Et je me souviens, un couple est passé par là qui était dans la foi. Et quand il m'a entendu, la dame m'a demandé où est-ce que j'avais fait les études bibliques. Mais c'est tout simplement parce que j'étais à une très bonne école. Alléluia. J'entendais, je comprenais, je lisais la Bible, et ensuite, quand j'étais quelque part, eh bien, je partageais cela. C'est aussi être actif dans l'œuvre de Dieu. Consoler ceux qui sont affligés. S'impliquer dans différents départements. Nous avons tant de départements ici, dans lesquels vous pouvez vous impliquer. Vous voyez? Être actif. C'est ce que nous avions vu sur le plan spirituel. Ça concerne encore l'image du champ, le serviteur qui travaille dans le champ. Voilà. On contribue à ce que les choses avancent dans l'Église. Voilà. On porte l'Église dans son cœur. On combat le mal d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? On travaille. On arrive à planter comme nous l'avons vu, l'un sème, l'autre arrose, et Dieu fait quoi? Dieu fait croître. Mais avant de semer, il y en a eu un qui lui a enlevé la mauvaise herbe. D'autres, l'autre a enlevé les pierres. D'autres a préparé les plateformes là. Voyez-vous? Il a veillé à ce que tout se passe bien. Et c'est seulement après que le semeur vient et il jette la semence. Oui. Et après avoir jeté sa semence, eh bien, ou la semence, parce que la semence ne lui appartient pas, vient l'arroseur. Il vient arroser, n'est-ce pas? Eh bien, chacun aura fait sa part. Chacun aura été d'une manière ou d'une autre actif dans l'œuvre de Dieu et chacun recevra sa part de bénédiction, sa récompense en ce jour-là. Le semeur ne peut pas dire qu'il est plus grand que l'arroseur. Et l'arroseur ne peut pas dire qu'il est plus grand que celui qui a prêté le champ. Celui qui a passé son temps à arracher les orties, à arracher la mauvaise herbe, à se blesser, à ramasser toutes sortes de déchets. On ne peut pas dire que celui-là est moins que l'arroseur. Vous voyez? Dans l'œuvre de Dieu, nous sommes tous importants. Car tout ce que nous faisons pour Dieu et avec Dieu est grand. Ça peut être simplement apprêter la salle comme celle-ci, avant nos cultes. Il y a des personnes, Omar et toute son équipe, des sœurs, des frères, qui sont toujours là. Regardez toutes ces belles fleurs. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous pensez que c'est tombé du ciel? Maman Caïn doit avec toute son équipe. Marie-Jules. Vous pensez que c'est tombé du ciel? Il y a des gens qui réfléchissent. Comment nous pouvons rendre beau l'estrade? Ils vont chercher des fleurs, ils travaillent, etc. Chacun fait ce que Dieu lui demande. Oh, alléluia! Nous devons être actifs. Mais aussi, l'Église, ce n'est pas seulement sur le plan spirituel. L'Église aussi, c'est aussi sur le plan matériel et social. Oh, alléluia. Nous devons être actifs, mes amis, sur le plan social, sur le plan matériel, en soutenant l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre, avec nos offrandes, avec nos dîmes, eh bien, nous manifestons notre amour pour Dieu. Et nous pouvons dire que nous sommes actifs dans ce domaine-là. Oh, alléluia. Car avant que la semence arrive entre les mains du semeur, il faut qu'il y ait eu quelqu'un qui est allé acheter cette semence-là. Oui ou non? Et que celui-là, eh bien, il faut qu'il soit parti dans un magasin spécialisé pour avoir la semence. C'est toute une chaîne. Et donc, en donnant les offrandes, en soutenant l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre, en mettant au service du Seigneur, en mettant au service de l'Église nos biens, quels qu'ils soient, eh bien cela nous rend actifs dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soyez de ceux qui regardent dans l'Église et qui se disent, oh là là, comment je peux faire pour améliorer ici? C'est vrai que tout ça, on va casser, mais en attendant, je vois que il faut peut-être remettre la peinture, rafraîchir un peu la salle. Vous allez voir l'intendant, il dit, écoutez, combien ça peut coûter s'il faut remettre la peinture? L'intendant va vous donner une idée. Il dit, voilà, j'ai prévu un montant. Et puis on achète, et puis on rafraîchit, on met la couleur. Alors imaginez-vous un peu votre joie, vous qui avez donné cela. Personne ne vous connaît. Si ce n'est l'intendant, peut-être moi, que tu as vu, ou que vous avez vu. Mais imaginez-vous quand vous arrivez, une semaine plus tard, là où vous aviez vu des traces d'humidité, quand vous levez les yeux, tout est nickel, tout brille. Quels seraient vos sentiments d'avoir fait une bonne œuvre? Alléluia. Et donc, quand nous mettons nos moyens financiers, nos biens matériels. Vous rappelez, quand on creusait encore ici, un frère de l'Église qui a des outils d'engins, voilà, qui a des engins de construction, avait mis à notre disposition toute une machine. Au lieu d'avoir une seule machine pour travailler, nous nous sommes retrouvés à deux. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment cela avait fait avancer les travaux. Il avait mis cet engin. Alléluia. Être actif dans l'œuvre de Dieu. Voyez? Soutenir l'œuvre de Dieu par toutes sortes de dons. Les mettre. Voyez? Cela, eh bien, fait partie de l'activité à laquelle le Seigneur s'attend de la part de chacun de nous dans le cadre de son Église. Son Église est un champ dans lequel vous et moi nous sommes appelés à travailler. Alléluia. Voyez? Ce qui est valable pour le champ, pour le labourage, est aussi valable pour les troupeaux. Car non seulement le maître a le champ, mais il a aussi du menu troupeau, du menu bétail plutôt, ou du gros bétail, peu importe. Et selon le type de bétail, eh bien les soins sont adaptés, oui ou non? Voilà. Et donc, cela est aussi vrai. Nous sommes appelés à être actifs parmi le troupeau du Seigneur. Voyez? Nous impliquer d'une manière ou d'une autre à créer des conditions qui permettent aux brebis que nous sommes d'aller de l'avant. Prendre soin les uns les autres, c'est être actif. Vous n'avez pas toujours besoin de venir me dire, mais oui, mais ce frère a besoin d'aide, pasteur. Mais oui, toi tu as vu qu'il a besoin d'aide. Pourquoi tu ne l'aides pas? Hein? La Bible nous dit, nous sommes responsables les uns des autres. Alléluia. Nous devons veiller les uns sur les autres. Tout ça nous permet d'être actifs. Et dans ce troupeau du Seigneur, il y en a qui sont appelés à nourrir ce troupeau, à l'enseigner avec la parole de Dieu. Voilà, ce sont tous ceux qui ont reçu ce ministère, les cinq ministères dont il est question dans Éphésiens. Voilà. Les apôtres, les prophètes, les enseignants. Voilà. Ou docteurs. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on utilise à tort hein, ce terme-là. Tout le monde est docteur. Voilà. Aujourd'hui, il y a même moyen de faire un doctorat en 2 ans, un an. En plus sur Internet. On t'envoie des questionnaires auxquels vous répondez. Et puis, ils vous préparent un peu un type de mémoire. Vous voyez. Et puis, vous n'aurez qu'à remplir. Et à la fin, hop, vous soumettez. On vous questionne par Internet. Et puis, le lendemain, on vous envoie, tiens, vous êtes docteur en ceci. Et c'est comme ça qu'ils sont tous des docteurs, des maîtres, tout ce que vous voulez. Vous voyez. Il y en a qui sont appelés à être des prophètes, à être des évangélistes. Eux, ils sont chargés de nourrir le Seigneur, et plutôt le troupeau du Seigneur. Être actif dans la bergerie du Maître. Nous en faisons tous partie, oui ou non. Nous sommes tous de brebis. Voyez, et nous devons veiller les unes sur les autres. Nous sommes dans la bergerie du Maître. Et il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Il faut aller chercher les brebis qui sont encore dehors. Vous voyez? Les âmes qui sont perdues, qui sont à la recherche de quelque chose d'authentique, de vrai, et qui tombent souvent entre les mains de toutes sortes d'aventuriers. Nous sommes appelés à être des témoins, c'est-à-dire évangéliser, amener des gens à l'église. Fixez-vous cet objectif-là. Priez pour les uns et les autres, les autres que vous connaissez, dans le but de les attirer un jour à Christ. Alléluia. Quand vous faites ça, eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes actif, vous travaillez en amont et vous remplissez une des conditions qu'il faut absolument remplir pour que le Seigneur puisse générer la foi de Dieu en nous. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Je vais prendre, avant de terminer, 2 exemples qui illustrent tous ces propos. C'est-à-dire l'importance d'être actif dans tous les domaines. Le domaine spirituel, le domaine social, le domaine matériel, tout ce que vous voulez. Vous connaissez tous l'histoire de cette femme qui était disciple du Christ. Cette femme qui était très active dans l'œuvre de Dieu. Cet habitat. Nous sommes dans Actes chapitre 9 très rapidement, à partir du verset 36. Tabitha, ou Dorcas en grec, qui veut dire gazelle. Hein? Tabitha, c'est en araméen. Il y avait donc à Jaffa ou à Joppé, c'est la même chose. La ville existe encore aujourd'hui. Il y avait donc à Jaffa une femme du nom de Tabitha. Normalement, littéralement, il y avait à Jaffa une femme disciple. Ça, c'est important. Voilà. Voilà. Si vous avez une version, on n'a pas mis disciple comme ici, vous pouvez mettre ça de côté. Voilà. Vous n'allez pas tordre la parole de Dieu. Puisque en grec, on retrouve cette connotation que ce n'était pas une n'importe quelle femme, c'était une femme qui était disciple du Christ. Alléluia. Une femme disciple du nom de Tabitha, qui s'est traduit par Dorcas, donc en grec. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. On continue. Elle tomba malade dans ces jours-là. Attention, ça va s'éteindre, nos amis. Hein. C'est la technique devant moi, là. Hein. Elle tomba malade en ces jours-là. Elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et comme Lydda est près de Jaffa, donc Pierre était à Lydda, et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Regardez le verbe utilisé, supplier. C'est pas simplement lui demander, « Oh, Pierre, tu veux bien passer un peu par Jaffa, nous faire un petit coup ?» Non, non, non. Ils l'ont supplié parce qu'il y avait un besoin. Qu'est-ce qui avait motivé tout cela? Que les gens entreprennent tout un voyage, qu'ils arrivent, qu'ils trouvent Pierre, qu'ils les supplient. Pierre, s'il te plaît, tu dois passer absolument par Jaffar. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute, là où se trouvait la dépouille, le corps de Tabitha. Toutes les veuves, lisez avec moi, toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria, puis se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi !» Alors Tabitha ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Et le verset 41, « Pierre lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. » Pouvez-vous imaginer la joie? Alléluia. Mes amis, les œuvres parlent en notre faveur. Ce que nous faisons dans le cadre de l'Église parle en notre faveur. Si cette femme est revenue à la vie, c'est parce que ses œuvres ont parlé. Les veuves, tous les gens de sa ville qui avaient bénéficié de ses largesses, de ses œuvres bonnes. D'ailleurs, la Bible nous dit littéralement, pas qu'elle faisait, mais elle était remplie de bonnes œuvres. Ça change tout, hein. Et donc, ce qu'on voyait n'était que la manifestation de ce qu'il y avait dans son cœur. Voyez? Elle faisait beaucoup de bien tout autour d'elle. Voilà. Elle faisait des tuniques, des manteaux qu'elle donnait aux veuves, aux personnes qui n'avaient pas de moyens. Elle avait une très bonne réputation. Oui, Tabitha était active. Oui, Dorcas était active. Et quand elle meurt, pour les veuves, pour les gens qu'elle a eu à aider, c'était la catastrophe, oui ou non? Elles ont pleuré, ces femmes-là, et d'autres personnes. Seigneur, qu'est-ce que tu nous fais? En partant, ben, elle amène son talent ou ses talents. Donc, pour ces veuves-là, pour les autres disciples, Tabitha était plus qu'une disciple. Elle était remplie de bonnes œuvres. Elle était remplie d'aumônes. Voyez? Et les gens se sont dit non. Elle meurt. Ben, nous allons tout perdre. Qui va s'occuper de nous? Elles ont pleuré. Et comme Dieu fait bien les choses, Pierre était à Lydda, pas loin de là. Ils ont envoyé une délégation. Et dit, nous ne pouvons pas accepter qu'elle parte. Seigneur, amène-nous Pierre. Nous tenons à ce que cette femme reste au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'elle était très belle. Je vous pose la question. Parce qu'elle était très belle. Parce qu'elle avait été Miss Jaffa. Ah. Parce qu'elle était mannequin. Non. Vous voyez? Parce qu'elle était remplie de bonnes œuvres. Alléluia. Ce que nous faisons nous permet d'être actifs. Et en faisant ces choses-là, eh bien, nous créons des conditions en amont. Voyez? Ici, eh bien, c'est la foi des autres qui ont voulu absolument que Pierre arrive. Et quand Pierre arrive, il fait sortir tout le monde. Il monte dans la chambre haute où se trouvait le corps de cette sœur, de Dorcas, de Tabitha. Pierre va ordonner à la mort de lâcher prise. Eh bien, au nom de Jésus, Tabitha va revenir à la vie. Alléluia. Les œuvres parlent à notre faveur. Ce que nous faisons nous rend actifs dans l'œuvre de Dieu. Crée des conditions même auprès d'autres personnes pour que ces personnes-là deviennent de bénédiction pour nous. Car Dieu peut nous visiter à travers ces gens-là. Voyez-vous? Et cela est bien illustré, nous terminons par là. Dans Actes chapitre 10 avec Corneille. Corneille était un craignant Dieu. C'était un officier. C'était un officier, un centenier ou un centurion. Il avait à sa disposition tout un bataillon. Vous voyez? Et cet homme-là, malgré son origine romaine, païenne donc, avait fini par rencontrer le Dieu d'Israël, par croire, alléluia, et par être actif comme Tabitha dans les aumônes, qui était aussi, qui excellait dans les largesses. Et voilà, chapitre 10, des Actes. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centenier de la cohorte appelée italienne. Il était pieux, et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Oh, alléluia. Il faisait quoi? Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait des dons. Voyez-vous? Il était très charitable. Voilà. Il rencontrait les besoins physiques, les besoins matériels des autres. Et puis, il priait constamment. Et le verset 3, vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi, donc 15 heures, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait, Corneille. Il fixa le regard sur lui et saisi de crainte, il lui dit, mais qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes, oh, alléluia, les gestes sociaux que tu poses, les actes matériels que tu poses, tous ces dons charitables sont montés en guise de souvenir devant Dieu. Et le verset 5, envoie maintenant des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé Pierre. Et nous connaissons la suite. Je vais m'arrêter au verset 4. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées en guise devant Dieu. Littéralement, voilà ce que ça dit. L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes ou tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu. Qu'est-ce que c'est un mémorial? C'est un monument qui commémore quelque chose. Alléluia. Qui rappelle, par exemple, les exploits de quelqu'un à la guerre, ou qui commémore un événement. Vous voyez, quand on regarde un mémorial, par exemple, j'avais visité le mémorial de la Shoah, Yad Vashem, en Israël, à Jérusalem, et on pouvait voir tous les restes des biens de tous ces juifs qui avaient été massacrés par les nazis. C'est un mémorial, vous voyez. Les souvenirs sont là. Mais les gens ne sont plus. Ça permet d'entretenir la mémoire. Voilà que le Seigneur, l'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes se sont dressées en mémorial devant Dieu. C'est-à-dire, Dieu a vu ça. Oh, alléluia. Mes amis, quand nous prions, nos prières ne s'évaporent pas, ne se disparaissent pas comme des nuages. Chassé, je ne sais par quel vent, nos prières qui viennent tout droit de nos cœurs, les gestes que nous posons sur le plan social, sur le plan matériel, les offrandes, les dîmes, tout cela se dresse devant Dieu comme un mémorial. Tôt ou tard, Dieu verra ça. Dieu se souviendra de notre fidélité. Il se lèvera de son trône. Et il viendra nous rencontrer dans notre besoin. Alléluia. Et suscitera cette foi-là en nous. Nos prières se dressent comme un mémorial. Voyez-vous? Alors, mon frère, ma sœur, il y a tant à dire, mais je vais m'arrêter là. Soyons actifs dans l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Actifs sur le plan spirituel. Dans tous les domaines. actif sur le plan social, sur le plan matériel, fidèle dans les dîmes, dans les offrandes, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'Église, mes amis, eh bien, ne disparaissent pas comme ça. Ils finissent par devenir un monument de mémoire, un mémorial. Et le Dieu qui est vivant, voyez-vous, eh bien, un jour, il va voir ça. Il va voir les larmes que nous aurons versées dans la prière. Il va voir tous les gestes posés, comme Tabitha. Eh bien, et là, le moment venu, il s'élèvera. Il nous enverra un ange pour venir rencontrer nos besoins. Alléluia. Il agira d'une manière ou d'une autre. Alors, ne soyez pas de ceux qui sont de simples spectateurs dans l'œuvre de Dieu, mais soyez actifs, actifs dans les choses de Dieu. Et si nous le sommes, nous aurons rempli la première condition que nous devons absolument remplir, rencontrer, avant que le Seigneur puisse, après la deuxième condition, puisse générer en aval la foi qui nous fait entrer dans le miracle. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu nous as parlé et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Aide-nous, Seigneur, à être actifs dans tout ce qui t'appartient. Seigneur, éloigne de nous toute forme de fainéantise, toutes sortes, Seigneur, toute forme de paresse. Que nous soyons actifs sur le plan spirituel, Seigneur, en nous engageant dans l'Église d'une manière ou d'une autre. Que nous soyons actifs, Seigneur, sur le plan matériel, sur le plan physique, en t'honorant avec les biens que tu as mis à notre disposition. Car même le travail que nous avons, en réalité, ce travail, c'est toi qui nous l'as donné. Alors que nous puissions t'honorer avec ce travail et par ce travail, et le produit de ce travail. Oui, aide-nous à être, Seigneur, des hommes et des femmes actifs dans ton œuvre. Merci pour tout. Merci maintenant de nous donner l'occasion de nous rendre utiles, Seigneur, d'être actifs par rapport, Seigneur, à nos offrandes, par rapport à nos dîmes, par rapport à tout soutien, Seigneur, à la construction du nouveau temple. Oh, merci. Merci pour tous ces cœurs qui, dimanche après dimanche, eh bien, est prêt à te donner quelque chose pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen.